Oui, Seigneur, il est bon pour des frères et des sœurs de se retrouver ensemble. Ta parole nous dit que c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Araon ou la rosée du mont Hermon. C'est vrai que, Seigneur, seuls nous pouvons être déprimés ou être submergés par les difficultés, les problèmes. Seigneur, nous avons tellement soif de reprendre une perspective éternelle. Seigneur, merci de ton amour inconditionnel et des bons plans que tu as pour nos vies, Seigneur. Bons plans qui débouchent sur la vie éternelle, Seigneur. Amen. Nous venons de terminer les 8 premiers chapitres de l'épître de Paul aux Romains. Qu'est-ce que nous avons appris ? Souvenez-vous que nous avons appris que tous, autant que nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Qu'il n'y a pas de personne qui échappe à cet héritage que nous devons à nos premiers parents. Et nous avons appris la bonne nouvelle que Dieu a pourvu un plan pour nous accepter malgré notre péché. Et cette acceptation par Jésus, par Dieu, elle est simplement basée sur notre foi, pas sur nos œuvres. Et c'est cette foi dans le travail de rachat que Jésus a accompli à la croix. Le rachat, ça, dans le texte original, il y a deux idées. Il y a d'abord l'idée d'une libération, et puis l'idée du prix de la rançon qui a été exigée pour cette libération. Donc nous avons été libérés, mais au prix du Fils de Dieu, qui s'est livré pour nous-mêmes. Nous avons vu, en fait, que ce salut se compose de trois éléments. Ce qu'on appelle la justification, un mot un peu théologique. Ça veut dire que nous sommes déclarés justes, acceptables par Dieu. Et là, nous sommes délivrés de la punition du péché, la mort. Deuxième élément, c'est la sanctification. Non seulement Dieu nous déclare acceptables, mais il commence à nous rendre acceptables. Ça, c'est la délivrance de la puissance du péché. Nous avons la capacité de dire non au péché. Et finalement, nous l'avons évoqué dans Romains 8, le troisième élément du salut, c'est la glorification. Nous sommes héritiers de tout ce qui est à Christ, et nous serons dans l'éternité, nous prendrons part à sa gloire. Et ça signifiera la délivrance de la présence du péché. Ça, c'est en quelques mots le message des premiers chapitres de Romains 8. Nous avons appris que ce salut est complet, éternel, et que tout dépend du Seigneur. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui va nous glorifier. Nous devons nous soumettre à sa volonté parfaite pour nos vies. La semaine dernière, nous avons dit que c'était un peu l'Everest, l'Everest de la Bible. Dieu est pour nous. Dieu nous aime. Et il est dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Et Dieu fait que toutes les choses qui peuvent nous arriver, toutes les choses qui peuvent nous arriver, Dieu peut les retourner pour notre bien, si nous sommes de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par lui. Souvent le sentiment, on l'avait évoqué, c'est « mais moi, il ne m'a pas appelé, si vous avez envie de venir à lui, c'est qu'il vous a appelé. » Maintenant, suivant le plan de toutes les lettres de Paul, qui commence par établir des faits de doctrine, des choses à connaître, il fait suivre ça par des applications pratiques, des choses à faire. Parce que si on pense juste, on va vivre juste. Et Paul va venir à l'application pratique. Un auteur disait qu'en fait, la vie chrétienne, c'est comme un avion qui aurait besoin de ses deux ailes. Sur une aile, il est marqué « dépendance envers Dieu ». Et de l'autre côté, il est marqué « action ». Il faut un équilibre dans la vie de chrétien. On ne peut pas dire de façon fataliste « c'est Dieu qui décide tout ». je me laisse vivre. Non, nous avons notre part de responsabilité pour vivre comme Dieu veut que nous vivions. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, nous dit l'apôtre, l'évangéliste Luc. The good man takes out the good from the treasure of his heart. Et là, avant d'arriver à ce sujet de l'application pratique que nous attendons maintenant, Paul va faire une petite parenthèse. Les chapitres 9, 10 et 11, Paul va nous parler du plan de Dieu pour Israël. Et on pourrait penser que c'est une digression un peu malvenue, mais en fait, c'est pas du tout une diversion, une digression. Avant de continuer avec la partie pratique de sa lettre, Paul veut répondre à la question: est-ce que l'on peut faire confiance à Dieu? Parce qu'en fait, Dieu a choisi Israël pour venir s'incarner dans la race humaine. Nous avons déjà vu que les Juifs ont eu de grands privilèges. C'est par eux que Dieu a communiqué, par les prophètes d'abord. Et nous avons vu en survolant l'Ancien Testament qu'en fait, les frères de race israélite, les frères juifs de Jésus l'ont rejeté. Quelque part, on est en droit de se demander, il y a un problème. Dieu a choisi le peuple juif, mais il n'a pas assuré jusqu'à la fin qu'il y ait un peuple juif sauvé. Et maintenant, Paul nous dit que même les païens sont appelés par la foi à être acceptés par Dieu, à être sauvés. On est en droit de se demander, est-ce qu'il va faire mieux avec les païens, c'est-à-dire avec l'Église, qu'il n'a fait avec les Juifs? Donc, de voir quel est le plan de Dieu avec Israël, c'est quelque chose de fondamental, même pour ceux qui ne sont pas juifs. Paul va nous parler de ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Il va nous parler au chapitre 9 de l'élection, c'est-à-dire du choix. Au chapitre 10, il va nous parler du rejet de Dieu par Israël. Et au chapitre 11, il va nous montrer qu'il y a une promesse de restauration future d'Israël. Paul va donc répondre à nos inquiétudes avant de poursuivre la partie pratique de son épître. Nous allons lire ensemble les versets du chapitre 9, 1 à 13. D'abord, nous allons nous arrêter versets 1 à 5. Vous vous souvenez que Paul était arrivé au sommet de la montagne. Il disait: mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Alléluia. Et puis là, verset 9, nous lisons: je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. Car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Paul, après cette glorieuse apothéose du chapitre 8, il ne peut pas s'empêcher d'être rempli de tristesse, parce qu'il pense à ses frères dans la chair, c'est-à-dire les Juifs, les Israélites, qui malgré tous les privilèges que Dieu leur a accordés, ont rejeté Dieu, en rejetant Jésus-Christ, le Messie annoncé par les prophètes, qui est venu avec puissance accomplir des miracles devant leurs yeux. On est frappé par l'amour de Paul pour son peuple. Paul était considéré par les juifs traditionnalistes comme un apostat, un rebelle, comme un traître. Il avait maintenant un ministère auprès des païens. Et de plus, il disait que l'homme était libéré de la loi de Moïse. Vous vous souvenez, dans le livre des Actes, partout où Paul allait, on a dit qu'il y avait des conversions ou des révoltes, des émeutes. Parce que les Juifs le désignaient comme l'homme qui enseignait partout et à tous contre le peuple juif, contre la loi et contre le temple. Ça, c'est dans Actes 21-28. Il le traitait dans Actes 24-5 comme une peste qui provoque des disputes parmi tous les Juifs du monde. Il disait qu'il dirigeait la secte des Nazaréens. Et pourtant, Paul, dans Philippiens, dit qu'il se considérait comme un Hébreu né d'Hébreu. Il prend, selon la loi, où il fallait deux ou trois témoins pour qu'une déposition soit considérée comme vraie. Il dit, je prends trois témoins, je prends Christ, ma conscience, le Saint-Esprit. Et il dit, j'ai une tristesse continuelle, j'ai un chagrin dans le cœur. C'est un peu comme si vous avez des membres de votre famille que vous aimez beaucoup. Vous avez toujours cette douleur de savoir qu'ils ne sont pas encore sauvés. La question qu'on peut se poser, est-ce que vous seriez prêt à échanger votre salut contre le leur? Dans la Bible, il y a trois personnes qui ont exprimé ce souhait. Il y a Moïse, Christ, bien sûr, qui est allé à la croix, a été séparé de l'amour de son Père, qui s'est fait un objet de malédiction pour sauver les hommes. Et le troisième, c'est Paul. Et il est sérieux, il a pris Christ et Saint-Esprit, sa conscience, pour dire qu'il préférait être rejeté, ne pas être sauvé, si ça pouvait conduire au salut de ses frères. Vous vous souvenez que Moïse l'avait fait lorsqu'il était redescendu de la montagne, qu'il avait vu l'adoration du veau d'or, et il avait dit à Dieu, dans sa prière, qu'il préférait que son nom soit effacé du livre de vie, si c'était possible, pour que ses frères soient sauvés. Mais en fait, c'est une demande un peu insensée pour un homme, parce que la seule personne qui ait le droit et la puissance de le faire, c'était bien sûr seulement Jésus-Christ. Et donc Paul, lorsqu'il pense à cette ivresse de l'amour de Dieu, il est rempli de chagrin. Il dit, si seulement je pouvais, moi, être perdu pour qu'ils soient sauvés. Il se dit, c'est terrible de penser qu'ils ont reçu tous ces privilèges. Ils ont reçu 8 privilèges. L'adoption comme fils de Dieu. Au début, en effet, c'était un gouvernement par Dieu, avant qu'il n'exige d'avoir un roi comme toutes les nations voisines. Il y avait la gloire. La gloire ici, c'est la manifestation de l'excellence de Dieu qui était symbolisée par la nuée dans le tabernacle. Le mot hébreu, c'est la gloire Shekinah. Ça vient ça du mot Shakan, en hébreu, qui veut dire habiter. C'est la présence de Dieu que nous avons dit, chanté tout à l'heure, que j'aime ta présence. Il y avait toutes les alliances que Dieu avait passées avec les ancêtres des Juifs, Noé, Abraham, Moïse, David, la loi, les 10 commandements, le Pentateuque, tous les préceptes divins. Ils avaient aussi reçu des instructions concernant le culte, c'est-à-dire le sacrifice, le service religieux dans le temple. Ils avaient reçu toutes les promesses de Dieu. Ils avaient eu parmi eux des patriarches qui les avaient guidés, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Finalement, ils avaient reçu le Christ. Ils avaient été choisis par Dieu pour que Dieu atterrisse sur la planète. Ils avaient reçu le Messie annoncé. Le verset 5, d'ailleurs, est un verset sur la divinité du Christ. Il est dit, le Christ qui est au-dessus de toute chose, virgule, Dieu béni éternellement. Il y a un petit débat sur la traduction de ce verset en grec. Certains mettent un point après toute chose. Et ils disent, le Christ est béni au-dessus de toute chose, point, qui est issu de le Christ selon la chair, que le Dieu qui est au-dessus de toute chose soit béni éternellement. Mais en fait, la traduction la plus sérieuse, ce serait de dire vraiment que c'est Christ qui est Dieu béni éternellement. Et donc Paul pense à toutes ces choses que les Juifs ont reçues. Il est plein de chagrin de penser qu'ils ont rejeté Dieu. Et ça nous rappelle que lorsque Dieu accorde des privilèges, des occasions, ce n'est jamais une garantie de salut. C'est pas parce que vos parents étaient des chrétiens sérieux, c'est pas parce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, que vous êtes vraiment chrétien accepté par Dieu. Il n'y a pas de petits enfants dans la foi. Alors là, je veux dire, on n'est pas chrétien parce que nos grands-parents étaient chrétiens. Dieu nous demande à tous de prendre notre décision le concernant. Il considère encore une fois ses privilèges. Il ne le dit pas, mais je crois qu'il pense qu'en auraient fait les Corses, qu'en auraient fait les Bretons, s'ils avaient reçu tous ces privilèges. Non, il n'a pas dit ça. Mais c'est un peu son sentiment, il ne comprend pas qu'avec toutes ces choses reçues, les gens aient pu rejeter Christ. Et là, pour nous aider à comprendre cette possibilité, cette réalité malheureuse, il va nous parler d'un concept qu'on appelle des fois l'élection. C'est le choix souverain. La démocratie française invite le peuple à être souverain dans ses élections. Nous n'avons pas beaucoup de pouvoir individuellement, mais c'est encore la démocratie et ceux qui nous gouvernent, ils sont élus souverainement par le peuple. Ici, nous allons voir que Israël avait été souverainement élu par Dieu. Et dans ce passage qui suit, Paul va nous rappeler que Dieu est souverain, qu'il n'est subordonné à nul autre. Et ça, c'est quelque chose, cette souveraineté absolue, c'est quelque chose qui est clairement exprimé dans la Bible. Autrement dit, Dieu n'a de compte à rendre à personne. C'est un principe qui nous gêne, parce que souvent nous associons la souveraineté absolue, surtout, avec l'arbitraire. Souvent les souverains absolus, c'est des despotes absolus, des tyrans. Quand on pense à souverain absolu, on pense plus à Saddam Hussein qu'à Jacques Chirac. On a peur que ce soit l'occasion pour celui qui a cette souveraineté de faire ses choix en disant Amstram Gram, pique et pique et collégram. By saying mini, 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 mo. C'est pour ça qu'on n'aime pas entendre ce mot de souverain. Mais lisons du verset 6 au verset 13. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, parce qu'ils sont la descendance d'Abraham. Tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Ronnie aura une fille. Non, Sarah aura un fils, bien plus. Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, afin que les desseins de Dieu demeurent selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Paul va nous parler de ce principe de l'élection souveraine de Dieu. La liberté de Dieu, encore une fois, elle est absolue. Il nous dit ici que ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque. Caduque, c'est les arbres à feuilles caduques, c'est-à-dire qui tombent, qui échouent quelque part. Une meilleure traduction, c'est que ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet. Autrement dit, Dieu veut dire, Paul nous dit, c'est pas parce que les promesses de Dieu ne se sont pas réalisées encore avec Israël que l'on ne peut pas faire entièrement confiance à la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a failli, qui a échoué, c'est Israël qui n'a pas reçu, qui n'a pas su recevoir correctement la promesse. Encore une fois, la parole de Dieu, elle est éternelle, elle est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit Jésus dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Le prophète Isaïe disait « L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » La parole de Dieu, on peut continuer la confiance. Il ne faut pas prendre l'exemple d'Israël en disant « ça ne marche pas ». Et une chose importante, c'est de savoir que Dieu n'est engagé à faire que ce qu'il a promis de faire. Et il n'avait jamais dit que tout Israël serait sauvé. Parce que le verset qui est cité, c'était « En Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom ». Donc à partir d'Isaac, il y aura une descendance qui sera vraiment sauvée, appelée de ton nom. Autrement dit, il nous dit, c'est pas parce qu'ils descendent de Jacob physiquement, d'Israël, qu'ils font partie d'Israël. Que veut dire Israël ? Jacob, ça voulait dire celui qui attrape le talon de son frère. Jacob, ça voulait dire roublard. Roublard, comment on dit ça en anglais ? Cheater. Heel catcher. Et Israël, c'est le nouveau nom que Dieu lui a donné après le combat. Ça veut dire gouverné par Dieu. Et il dit, c'est pas parce qu'on est juif qu'on est gouverné par Dieu. Qui sont véritablement les enfants de Dieu ? Quand il dit, une fois il dit, c'est pas parce qu'ils descendent d'Abraham qu'ils sont ses enfants. C'est pas les enfants selon la chair, c'est les enfants physiques qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont ceux qui sont de la promesse, qui vont être comptés comme descendance. Encore une fois, ils vont être humbles devant Dieu, reconnaître que son intelligence est infiniment supérieure à la nôtre. Nous pouvons nous émerveiller devant notre propre intelligence, mais ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont, ses voix sont élevées au-dessus de nos voix, et nos pensées au-dessus, ses pensées au-dessus de nos pensées. C'est le prophète Isaïe dans Isaïe 55. Et l'illustration de Spurgeon, ce grand prédicateur anglais, qui réfléchissant sur ces passages, avait vu au bord de la plage, un petit garçon qui creusait un trou avec sa pelle dans le sable. Et il voulait en parler un peu avec lui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, qu'est-ce que tu fais là, mon grand ? Eh bien, tu vois pas, je fais un trou. Ah oui, mais tu fais un truc, qu'est-ce qu'il va faire avec ce trou ? Je vais mettre l'océan dans le trou. Ah ! Il a repris son chemin, et après il s'est dit, mais en fait c'est ça ce que j'essaye de faire. J'ai mon petit cerveau, et j'essaye de mettre l'océan de l'intelligence divine dans ce petit cerveau. Et donc les enfants de Dieu, c'est pas seulement tous ceux qui descendent d'Abraham. Jésus nous a dit que c'est à ceux qui ont reçu la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, que cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de la généalogie physique. Encore une fois, c'est tous ceux qui sont des enfants de la promesse. À quoi est-ce que fait allusion Paul au verset 7 et 8 ? Il parle de l'élection, du choix souverain par Dieu d'Isaac. Vous vous souvenez que Dieu avait promis un enfant à Abraham et Sarah. Abraham commençait à être impatient. Dieu lui avait promis une postérité qui allait bénir toute la terre. Sa femme avait atteint l'âge de la ménopause. Lui n'était plus tout frais non plus. Et il n'y avait pas d'enfant. C'est là qu'ils ont décidé d'aider Dieu sur l'idée de Sarah. Et d'utiliser la coutume de l'époque qui voulait que si une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, sa servante pouvait porter un enfant en ayant un enfant avec son mari. Ça a été l'épisode avec Agar, la servante qu'ils avaient ramenée d'Égypte, qui avait donné naissance à Ismaël, le père de la nation arabe. Ce qui est intéressant, c'est que Abraham a eu des fils. Est-ce que vous saviez qu'il a eu au total, il a eu 8 fils. Il en a eu un avec Agar, un autre avec Sarah, et 6 autres avec une femme qui s'appelait Ketura, Genèse 25. Pour votre information, il s'appelait Zimran, Yokshan, Medan, Madian, Yishbak et Shua. Vous les avez probablement jamais remarqué, parce que chaque fois qu'il est question du fils d'Abraham, que Dieu parle, il parle seulement du fils de la promesse, il parle d'Isaac. le fils de la promesse qui a nécessité un miracle de la part de Dieu. Et un auteur chrétien dit qu'en fait, Ismaël, il reste à jamais comme le symbole de la futilité, de penser que Dieu va se conformer à nos idées pour son action. Souvent, on essaye de jouer à Dieu. On pense que devant une situation donnée, la meilleure solution serait que ça se déroule comme ça. Et on prie pour que Dieu réalise que c'est effectivement la meilleure solution. Encore une fois, c'est Dieu le patron. Et le seul enfant, ça a été donc cet Isaac. Il continue au verset 10 et 13 en parlant maintenant de l'élection de Jacob. Pour nous montrer encore que Dieu choisit selon son bon plaisir. Isaac a eu deux enfants avec Rebecca, Jacob et Ésaü. Et même avant leur naissance, Dieu avait choisi Jacob et non Ésaü. Et contrairement à la tradition, Dieu avait dit que le plus âgé, c'est-à-dire Ésaü, serait asservi au plus jeune. C'était en effet l'aîné des jumeaux, c'était Ésaü. Mais Dieu avait déjà choisi que c'est par lui que viendrait la promesse du Messie. Par Jacob. Et ça, il l'avait fait avant leur naissance. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est vrai qu'on a du mal à se dire, mais comment est-ce que Dieu peut haïr quelqu'un avant même que cette personne soit née? En fait, ça veut plus qu'une haine au sens où on l'entend aujourd'hui. Haïr, ça veut dire aimer moins. Comme lorsque Jésus nous disait, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Autrement dit, vous devez haïr toutes ces choses et m'aimer moi seulement. Pas question de haïr son père au point de le détruire, puisque Dieu nous dit, tu honoreras ton père et ta mère. Mais ça veut simplement dire que ton amour pour moi doit faire que l'amour filial que tu as pour tes parents soit comme de la haine en comparaison. Paul continue en anticipant toujours les questions de ses lecteurs ou de ses auditeurs. Lisons 14 à 29. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et que pour que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer, car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé, dira-t-il au modeleur, pourquoi te m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour la gloire, c'est-à-dire à nous qu'il a appelé non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, comme il le dit dans Osée, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Somore, nous aurions été semblables à Gomorre. » Question, c'est si Dieu agit ainsi en décidant selon son bon choix, il doit être injuste. Non, la parole de Dieu nous dit que Dieu est un juste juge, comme Psaume 7, 11 l'affirme. Il n'y a pas d'injustice dans cette liberté de choix. il fait miséricorde à qui il veut. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce qu'on mérite. La justice, ce serait recevoir ce qu'on mérite. Et la grâce, c'est recevoir ce qu'on ne mérite pas. Miséricorde, c'est ne pas être puni. La grâce, c'est être béni alors qu'on mériterait d'être puni. Dieu, sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est chouette. C'est formidable. Dieu qui est tout puissant pourrait aussi bien dire « J'aimerais bien en sacrifier 2 sur 5. » C'est lui le patron, c'est lui qui nous a créés, il peut faire ce qu'il veut de nous. Et Paul utilise cette illustration du pharaon déjà, qui pose problème parce qu'on dit qu'en fait Dieu avait endurci le cœur de Pharaon lorsqu'il ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël. Il est même dit que il fait référence au passage où Dieu dit au Pharaon s'il est là, c'est parce que Dieu l'a mis là pour montrer sa puissance. Mais en fait, avant que ce soit Dieu qui endurcisse le cœur de Pharaon, dans l'Exode, il est dit 7 fois que c'est Pharaon qui a endurci son cœur. Et le mot qui est utilisé pour dire que finalement Dieu a endurci le cœur de Pharaon dans cette attitude de rejet, ça veut simplement qu'il a fortifié le cœur de Pharaon dans sa décision de rejet. C'est un peu comme s'il a passé une couche de vernis pour dire ça y est, l'image est terminée. Ou comme un fixateur pour ceux qui font de la photo. Il y a des produits chimiques et à la fin on arrête l'évolution en mettant du fixateur. Et c'est vrai que Dieu savait à l'avance que cette obstination du Pharaon allait le rendre encore plus glorieux dans son miracle. Dieu fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Paul continue, est-ce qu'on peut contester cette liberté que Dieu a? La question du verset 19, c'est pourquoi est-ce qu'il peut blâmer puisqu'il a tout pouvoir pour décider de sa volonté? Il utilise maintenant l'image du potier et de l'argile. Nous avons eu, il y a quelques années, la visite du pasteur Pat Lazovitch du Nouveau-Mexique. Pasteur qui se trouvait être aussi un ancien potier. Et certains d'entre vous ont assisté à sa présentation avec un tour de potier et de l'argile. Et encore une fois, c'est une illustration qui marque nos esprits. Parce que nous voyons comment c'est naturel qu'un potier décide de ce qu'il veut faire sans que l'argile lui parle. On peut prendre un morceau d'argile, on peut en prendre la moitié, en faire un joli cendrier qui va recevoir des cendres de cigarettes, des mégots jaunis par la nicotine et qui sentent mauvais. Ou il peut prendre la deuxième partie de cette argile pour en faire un joli vase de fleurs. Il va recevoir donc la beauté des fleurs et leur bon parfum. Le potier, c'est vraiment une image de souveraineté. Et c'est ce qu'il lorsqu'il parle de vase d'honneur ou de vase de miséricorde ou de vase de perdition. Perdition, verset 22. Les vases de colère. Encore une fois, le potier a le droit de faire ce qu'il veut de l'argile. Le problème avec nous, c'est que nous sommes un morceau d'argile qui a la capacité de se rebeller. Pat Lazovitch nous avait convaincu qu'en fait il était bon si nous étions vraiment de l'argile, que nous voulions être usés par Dieu, d'être dociles entre ses mains. Il ajoutait même que la parole de Dieu, c'était comme l'eau qui nous permettait d'être bien malléable. L'argile, elle a plutôt intérêt à être souple qu'à résister. Il rejetait plusieurs des morceaux d'argile qui étaient durs par terre. Il était capable de reprendre ces morceaux, de leur remettre de la parole de Dieu et de en faire quelque chose de beau. Mais l'argile que nous sommes a toujours le choix de dire non au potier. Et c'est vrai que d'être de l'argile entre les mains d'un potier, ça peut être angoissant. Sauf si nous savons que le potier est bon, qu'il a de bonnes intentions. Il est libre, le divin potier, de faire ce qu'il veut de la masse d'argile qu'il a. Cette masse d'argile qu'il a à sa disposition, c'est l'humanité déchue, l'humanité qui est tombée dans le péché.